Apocalypse chapitre 11, versets 1 à 2. On me donna un roseau semblable à une verge, et l'ange se présenta et dit, « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. » Alors, si vous voulez vous asseoir. Alors, je dois vous dire quelque chose, c'est que c'est la première fois de ma vie que je prêche sur un texte de deux versets, puis ça me prend trois semaines pour le donner. Mais quelque part, c'est un texte important, c'est un texte très instructif, il y aurait beaucoup à dire. Alors, c'est ça, on va reviser tout ce qu'on a vu jusqu'à l'heure actuelle, de manière à ce qu'on puisse le terminer cette semaine. Donc, le titre que j'avais donné, c'est « Jean se voit donner l'instrument pour mesurer le temple et rejeter le parvis extérieur ». Donc, il y avait comme trois grandes idées qu'on voulait regarder à l'intérieur de ces deux versets-là. Donc, on veut parler de la mesure, sa définition, et la deuxième idée qu'on va regarder, c'est la mesure, sa détermination, et la troisième, la mesure, sa délimitation. Alors, dans Apocalypse, chapitre 9, verset 12, on avait dit qu'il y avait eu trois grands malheurs qui avaient été annoncés. Alors, il y avait on marche avec les trompettes, les malheurs, les trompettes se suivent. Donc, le premier grand malheur, c'était celui qui correspondait avec la cinquième trompette. Et l'idée de cette partie-là, c'était que les démons recevaient du Seigneur la permission de tourmenter les incroyants et les persécuteurs impies de façon très intense, tant physiquement que psychologiquement. Et on avait vu aussi dans cette partie-là que Dieu limite leur pouvoir en ne permettant pas que les incroyants puissent s'enlever la vie suite aux douleurs, à leur douleur et à leur terrible angoisse. Donc, on voit que Dieu va permettre que les incroyants et ceux qui persécutent l'Église vont être vraiment... Ils vont recevoir beaucoup de douleurs, à la fois physiques et psychologiques. Et la tentation, quand les douleurs physiques et psychologiques sont très intenses, la tentation de l'homme, c'est de se retirer par le suicide. Dieu ne permettra pas qu'aucune personne durant cette épreuve-là, puissent sortir de leur angoisse et de leur douleur. Donc, on arrivait à un petit peu plus loin à celui de la sixième trompette, qui se trouvait être le deuxième grand malheur. Alors, il y avait trois grands malheurs qui avaient été annoncés. Le deuxième grand malheur, on avait vu dans le texte, c'était une armée de 200 millions de démons, parce qu'on parlait de sauterelles, mais on sait par le texte et par le contexte que c'est pas vraiment des insectes, là. C'était des démons, ayant la mission de tuer le tiers des hommes de la Terre. Alors, quand on parle du tiers, là, on parle de 8 milliards, là, ça voudrait dire quelque chose comme pas loin de 3 milliards, 2 milliards et demi. Alors, ça serait énorme. Le Seigneur permet, cette fois-ci, la première fois, on voit qu'il y a une intensification des malheurs que le Seigneur envoie. Alors, 200 millions de démons qui ont la mission de tuer le tiers des hommes de la terre. Donc, on avait annoncé sept trompettes et trois grands malheurs. La suite logique, quand on lit dans, disons, le chapitre 8, chapitre 9, on s'attendrait à ce que si annonce trois malheurs, que le troisième malheur soit mentionné. Ou si on annonce sept trompettes, puis qu'on a nommé la cinquième et la sixième, on s'attendrait à ce que la septième arrive. C'est drôle, le Seigneur a mis une parenthèse. La parenthèse, c'est ce qu'on a étudié au cours des dernières semaines. Donc, c'est sept trompettes, trois grands malheurs. La suite logique, vraiment, serait que l'on nous parle de la septième trompette et du troisième grand malheur. La séquence est interrompue par ce qu'on appelle un interlude ou une parenthèse. Mais pourquoi la chose qu'il faut se poser comme question, pourquoi le Seigneur remet la septième trompette et le troisième malheur beaucoup plus loin? C'est parce qu'il veut que ses enfants soient assurés de quelque chose qu'ils vont passer à travers. Il va les donner la, il va leur donner la force d'être capable de traverser cette affaire-là. Alors, cette interruption-là est intentionnelle. Elle comprend tout le chapitre 10 et une partie importante du chapitre 11. Vous voyez, 9, on parle de ça, puis 10 et 11, c'est comme on se demande, qu'est-ce qui arrive avec la septième trompette? Qu'est-ce qui arrive avec le troisième grand malheur? Il y a quelque chose que le Seigneur a besoin d'enseigner à son peuple avant de parler du troisième malheur et de la septième trompette. Alors, elle comprend cette intervention-là, cet intermède-là dure tout le chapitre 10 et une partie importante du chapitre 11, les 13 premiers versets. Dans le verset 14, le Seigneur va vraiment introduire la septième trompette. On sait qu'il n'y a rien que sept, hein? Donc, la septième, ça veut dire que c'est en train d'introduire un des jugements les plus grands et les plus sévères que le Seigneur va envoyer. Alors, si on regarde le verset 14 et le verset 15 de Apocalypse 11, voici ce que ça dit. Deux chapitres plus loin, il ne faut pas oublier là, qu'on est vraiment deux chapitres plus loin. Le second malheur est passé. Le troisième malheur qui viendra, voici le troisième malheur qui viendra bientôt. Or, le septième ange sonna de la trompette, et de grandes voix se firent entendre dans le ciel qui disaient « Les royaumes du monde sont soumis à notre Seigneur et à son Christ, et il règnera au siècle des siècles. » Moi, ce que je vous dis, c'est que je remarque que ce qu'on est en train d'étudier, ça donne, c'est un addon divin. Parce que ce qu'on est en train de vivre, on est en train de comprendre un peu les choses que le Seigneur a dit qu'il va envoyer. Donc, on avait parlé dans les leçons précédentes, c'est important de le reviser parce qu'aujourd'hui, on termine la leçon, c'est le terme, on va le faire rapidement. Alors, il y avait plusieurs choses importantes si on voulait interpréter correctement les deux premiers versets du chapitre 11. Et c'était les choses suivantes. Choisir la bonne interprétation. Alors, on avait vu que les grands auteurs s'accordent tous pour dire que c'est très important l'interprétation que tu vas choisir là, parce que ça a une conséquence sur le reste de la Bible. Sur le reste, pas de la Bible, mais sur le reste du livre de l'Apocalypse. Alors, c'est important que tu fasses le bon choix au bon moment, parce que sinon, ça va t'emmener dans toutes sortes de directions qui sont... Alors, voici. Alors, l'importance du choix. On l'avait fait, le choix, nous, on avait dit qu'on prenait le choix de l'interprétation qu'on appelle idéaliste et non pas dispensationaliste et non pas non plus prétériste qui place toute cette action-là dans le passé. Alors, on va revenir un petit peu là-dessus. Deuxième décision importante qu'on se devait de prendre, on pourrait avoir trois questions. Le passage doit-il être interprété littéralement ou symboliquement? Dépendamment de ce que tu vas dire, si tu dis littéralement, ça va t'emmener très loin. Là. Puis si tu dis symboliquement aussi, alors il peut pas... Moi, ce que je trouve intéressant dans les Écritures, aujourd'hui, il y a beaucoup de systèmes théologiques qui se sont développés de façon parallèle. Mais soyez certains que les Écritures n'enseignent pas trois choses. Les Écritures enseignent une chose, donc il y en a deux qui sont impétantes. Donc, il faut comprendre ça, là, parce que si on ne comprend pas ça, il y en a qui pensent ça, puis il y en a d'autres qui pensent ça. C'est sûr qu'il y en a d'autres qui pensent ça, mais il faut toujours garder à l'esprit que l'interprétation du Seigneur qui veut nous faire comprendre à son peuple, c'est une interprétation, il ne peut pas avoir deux interprétations, puis trois interprétations, puis sont correctes toutes les trois, là. Ça, c'est bien important de comprendre ça. Donc, le passage doit-il être interprété littéralement ou symboliquement? Les auteurs que j'utilise me disent tout symboliquement. Deuxième chose, quelle école d'interprétation est la plus harmonieuse avec le reste du livre et l'ensemble de la Bible? Donc, il y a comme trois grandes écoles. Il y a le dispensationalisme, on ne rentrera pas dans les détails de tout ça parce qu'on en aurait pour des semaines et des mois. Après ça, le prétérisme. Autrement dit, il y en a un qui situe l'avenir, qui situe l'action de l'Apocalypse dans l'avenir, mais que l'Église y a déjà enlevé. L'autre, il situe que toute l'action se situe dans le passé et que tout a été terminé avec la destruction du Temple de Jérusalem en 70. Et la troisième, c'est vraiment le symbolisme. Alors, nous, on croit que c'est l'idéaliste qui est le plus harmonieux avec le reste de l'interprétation du livre de l'Apocalypse. Et la troisième chose qui est très importante aussi, est-ce que nous adoptons la règle que l'enseignement du Nouveau Testament éclaire et détermine le sens des passages de l'Ancien Testament? Parce que beaucoup de problèmes d'interprétation viennent de là. Tous les théologiens qui font, la majorité de ceux que je connais, ils sont tous d'accord sur le principe que c'est le Nouveau Testament qui vient interpréter les versets de l'Ancien, et non l'inverse. Il y en a qui font l'inverse, à quelque part, c'est qu'ils font, ils donnent la préséance aux versets de l'Ancien Testament sur ceux du Nouveau. C'est très important d'adopter ça. Alors, si tu suis les trois principes, idéaliste, et ensuite tu dis l'interprétation symbolique, et ensuite que tu acceptes que c'est le Nouveau Testament qui explique l'Ancien et non l'inverse, à quelque part, là, je pense que tu es sur la bonne voie. Alors, il y avait un but à cette parenthèse-là qui dure tout le chapitre 10 et qui inclut les 13 premiers versets du chapitre 11. Il y avait trois grands malheurs qui avaient été annoncés. Deux d'entre eux ont été révélés. Sur les sept trompettes, six d'entre elles ont sonné. Et le troisième malheur et la septième trompette sera révélée au verset 14 et 15. On vient de le lire. C'est ce que ça dit. Le troisième malheur viendra très bientôt. Le septième malheur, là, ça dit que le septième ange sonnera de la trompette, mais ça le dit juste au verset 14, chapitre 11. Qu'est-ce que le Seigneur veut faire avec cet interlude-là? Le Seigneur veut signifier à son peuple qu'ils connaîtront de grandes difficultés et de grandes souffrances à mesure que le monde et Satan augmenteront leur opposition à Jésus-Christ et à son évangile. Et plus particulièrement, lorsque le temps de sa deuxième venue approchera. Voyez-vous, qu'est-ce que le dispensationaliste enseigne? C'est qu'à partir du chapitre 4, ce n'est pas des choses qui s'adressent à l'Église parce qu'eux croient que l'Église va être enlevée. Ce n'est pas le cas, je ne crois pas que c'est ça. Alors, ça fait toute une différence, parce que si tu crois que l'Église va être enlevée, tous les malheurs qui sont annoncés, tu dis « pas pour moi, pas pour nous ». Alors que moi, je pense que c'est pour nous. Parce qu'on va traverser ces périodes-là, c'est très difficile. Et le Seigneur avait besoin de venir nous dire, nous rassurer. Alors, le peuple de Dieu se devait de recevoir de l'encouragement pour le persuader que le Seigneur les préservera, les fortifiera et permettra que leur témoignage soit maintenu jusqu'à la toute fin. Ils ont donc l'obligation de se préparer pour ce temps d'épreuve et de se réformer. Très important la phrase que je viens de dire là. Ils ont donc, ça c'est nous, l'obligation de se préparer pour ce temps d'épreuve qui s'en vient. Puis moi je suis convaincu qu'on rentre dedans, on est direct dedans, on est au début, au balbutiement, mais on est loin d'être sorti du bois. Ça j'en ai la conviction très profonde. On va rentrer dedans et on va traverser des choses extrêmement difficiles. On a commencé. Mais selon moi, c'est loin d'être terminé. Alors, il faut se souvenir aussi que le Seigneur nous a dit, dans Matthieu 16, au verset 18, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui qui construit l'Église, nous, on est des instruments, on distribue de la littérature, on partage l'Évangile autour de nous. C'est pas nous qui sauvons, c'est le Dieu qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Alors, si c'est lui qui sauve, il faut, comme il dit ici, je te dis que tu es Pierre, que je bâtirai mon Église. C'est le Seigneur qui est en train de construire son Église, et son Église, ce n'est pas des pierres. C'est des pierres vivantes, c'est des individus, c'est des croyants. C'est ça qui forme l'ensemble de l'Église, c'est l'ensemble des croyants de toutes les époques, de tous les temps. Alors, quand il nous dit la définition, le premier verset nous dit « Alors on me donna un roseau semblable à une verge ». Un roseau, c'est quelque chose pour mesurer. Et quand il parle du temple, on avait vu au cours des semaines précédentes que j'avais donné un petit peu le tabernacle et vous aviez vu aussi qu'il y avait trois temples qu'il y avait eu. Il y avait eu le tabernacle et les Juifs, quand Salomon a construit un temple, il a construit le temple avec les mesures qui ressemblaient beaucoup au tabernacle, mais avec des dimensions différentes. La deuxième temple, c'était celui de Zorobabel. C'est intéressant, le deuxième temple qui a été reconstruit en 537 avant Jésus-Christ. C'était un plan, mais que le lieu très saint était complètement vide. Ça, c'est hautement significatif. Il y aurait une étude extrêmement intéressante, je pense, quelqu'un qui vous donnerait la peine, là, de faire une étude du tabernacle et ensuite des deux temples, si on peut calculer celui d'Hérode comme étant un troisième. Il y a des enseignements théologiques et bibliques et christologiques là-dedans qui sont très, très, très importants. Alors, le temple d'Hérode, on se souvient qu'il avait été détruit en 70 par les Romains. Quand les Romains ont attaqué Jérusalem, ils ont voulu détruire ses murs, ils ont voulu détruire le temple, ils l'ont détruit. On se souvient que ça avait pris beaucoup d'années avant de le construire. Il n'a pas été debout longtemps, si on se souvient. Alors, la question de mesurer le temple, on pense que c'est symbolique. C'était une question de mesure les véritables croyants, parce que les véritables croyants ont des caractéristiques. Et c'était une façon de Dieu de dire, mesure qui est le véritable croyant dans ceux qui se prétendent des croyants. Il y avait trois choses qu'il fallait qu'il mesure. Le temple de Dieu, et il y avait aussi l'autel, et il y avait aussi ceux qui y adorent. On était rendu à peu près là la semaine dernière. Fait qu'on va continuer avec la troisième idée, qui était celle de la mesure, sa délimitation. Pourquoi, à la fin, il y a le verset 1, il dit « mesure le temple, mesure l'autel et mesure ceux qui y adorent ». Autrement dit, c'était comme s'il avait dit « mesure ceux qui sont des véritables croyants dans ceux qui se prétendent croyants dans une église, dans l'ensemble des églises de Dieu qu'il y a en Amérique du Nord et un peu partout dans le monde. Il y a à l'intérieur des églises des gens qui pensent qu'ils sont sauvés et qui ne le sont pas. C'est ça qu'il est en train de dire. Il est en train de dire, mesure le temple, ceux qui y adorent, parce que pour adorer, il faut être régénéré. Si tu n'es pas régénéré, ton adoration ne monte pas haut, comme on dit. Alors, quand il dit dans le verset 2, de ne pas mesurer, il dit, et le parvis qui est en dehors du temple, rejette-le, il ne le mesure point, car il a été donné aux nations, et elles le fouleront aux pieds. Très important, si vous allez regarder à la page 6, ceux qui ont les notes, là, de regarder très attentivement le plan qu'il y a là. Parce que faut replacer dans le contexte, quand Paul a voulu emmener, je me souviens plus, Trophime, je pense qu'il s'appelait, dans le temple, les Juifs ont cru que Paul, qui est un Juif, avait amené un non-croyant pour rentrer dans le temple. Donc, il l'avait emmené juste dans le parvis. Mais les Juifs ont cru qu'il l'avait emmené dans le temple. Et à cette époque-là, tu riais pas avec ça si tu emmenais un inconverti. Et tu voulais le faire rentrer dans le temple, les Juifs, tout simplement, ils tuaient. C'était pour eux autres, c'était le blasphème des blasphèmes que de faire rentrer un non-juif dans le temple. C'est important de voir ici le symbolisme de tout ça. C'est que il dit « mesure pas le parvis ». Donc, ne mesure pas ceux qui se disent croyants et qui sont à l'intérieur du peuple de Dieu, ce qu'on pourrait dire. Alors, plusieurs auteurs mentionnent qu'il y a une emphase qui devrait paraître dans les versions, mais qui ne paraît pas tout le temps. C'est pour ça que dans les versets 1 et 2, tu lis ça, tu dis « j'ai tout compris, moi, j'ai tout compris ». Pas sûr que tu as si compris que ça. Le mot grec, le mot « ekbalé », il est traduit différemment. Il y en a qui le traduisent « laisse-le »,« laisse-le à l'écart ». Martin a traduit « laisse-le à l'écart ». Darby est allé plus loin, c'est « rejette-le ». C'est comme s'il avait dit « regarde qui sont les véritables croyants dans les églises, et ceux qui ne sont pas des véritables croyants, rejettent-les parce que ce qui s'en vient, ce qui est annoncé, là, eux, ils n'auront pas la force et le pouvoir de traverser, de le vivre, de se rendre jusqu'au bout. Alors, plusieurs auteurs affirment que le mot « Ekbalé » devrait refléter le sens de, regardez, c'est pas des petits mots, là, « chasser, expulser, renvoyer, rejeter ». Autrement dit, c'est comme s'il était en train de dire tous les ceux qui ne sont pas des véritables croyants dans les églises, rejette-les, chasse-les, expulse-les, renvoie-les. C'est ça que le mot veut dire, le mot grec qui est utilisé dans l'Écriture. Alors, l'image du parvis, quand on dit le parvis ne le mesure pas, nous renvoie au temple de Jérusalem qui avait été construit par Hérode le Grand. À l'époque de Jésus, le temple qu'il y avait à Jérusalem, c'était le temple construit par Hérode le Grand, mais il l'avait agrandi. C'était le deuxième temple, mais agrandi. Alors, outre les zones réservées aux membres du temple d'Israël, qui sont au nombre de trois espaces, à savoir le Saint des Saints, lieu sacré et réservé au culte, et vers lequel le peuple d'Israël se tournait pour rencontrer Dieu, et où seuls les prêtres avaient le droit de pénétrer. Il y avait aussi la cour qu'on appelait une cour pour les hommes, et il y avait une cour pour les femmes et les enfants qui n'avaient pas encore fait ce qu'ils appellent, eux, les Juifs, le Bat Mitzvah. Il y avait une cour qui était réservée aux non-Juifs qui voulaient s'approcher de l'espace sacré et interroger les rabbins et les maîtres de la loi sur des questions de spiritualité, sur le mystère de la religion ou sur Dieu. Cette cour s'appelait le parvis des gentils. Ça voulait dire quoi, dans le fond? Rejette ceux qui ne sont pas des véritables croyants. Parce que eux, ce qui s'en vient, eux, ils vont le vivre vraiment comme un malheur, le troisième malheur. Alors, ce parvis des gentils était donc un espace où tous pouvaient se rendre sans distinction de culture, de langue, de profession religieuse. C'était un lieu où il était possible de s'interroger sur les grandes questions du sens de la vie et de la vie en société, et ainsi se rapprocher du Dieu inconnu. Cette cour, qu'on appelait le parvis des gentils, était donc un lieu de rencontre près du temple. Cependant, les gentils, ou les non-juifs, n'étaient pas autorisés à entrer dans le temple lui-même. Le contrevenant s'exposait à la peine de mort. Ils ont trouvé une inscription sur une plaque de calcaire en 1871 par l'archéologue Clermont-Garneau de Jérusalem, sous l'esplanade où se dressait autrefois le temple d'Hérode. Le texte dit que nul étranger, autrement dit un non-juif, ne pénètre à l'intérieur de la barrière qui entoure le sanctuaire. Le contrevenant qui serait pris ne pourrait que s'imputer à lui-même la mort qu'il subira. Donc, ce document-là exprime de la colère des Juifs contre Paul dans Actes 21, versets 27 à 36, car il croyait que l'apôtre avait introduit Trophime, qui est un non-juif, à l'intérieur de la partie du sanctuaire qui était interdite aux gentils. Si on accepte l'interprétation idéaliste ou symbolique, Jean se voit indiquer que la protection divine des jugements à venir dans la septième trompette se limitera aux authentiques croyants. Je le répète parce que c'est très important. Si nous acceptons l'interprétation idéaliste ou symbolique, Jean, qui est de l'apôtre Jean, se voit indiquer que la protection divine des jugements à venir, dans la septième trompette, se limitera aux authentiques croyants. Pas à ceux qui professent cette croyance, à ceux qui sont des véritables croyants. Très important de saisir cette idée-là. Alors, la raison pourquoi le parvis des gentils se devait d'être exclu de la mesure est parce qu'il a été donné aux nations. Il dit, cette partie-là a été donnée aux nations. Quelles sont les conséquences de ce rejet? Le texte nous dit, et elles fouleront aux pieds la cité sainte, la sainte cité. Donc, les nations, qui sont des incroyants, profaneront la cité sainte. Et ici, si on croit qu'on est en train de parler d'une bonne cité avec des murs et des pierres, on est en train de parler dans un sens symbolique. Donc, les nations, autrement dit, les non-croyants vont infiltrer de plus en plus les églises et ils vont profaner la Sainte Cité, parce que la Sainte Cité, c'est l'ensemble des véritables croyants. Donc, ils vont introduire des choses dans la véritable Église. Alors, profaner, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est traiter sans respect et violer le caractère secret, le caractère sacré de la foi en Dieu et en Jésus-Christ. Et c'est aussi faire un usage indigne et mauvais du culte. C'est d'avoir un comportement qui nie la réalité du témoignage envers ce qu'on affirme croire. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire ici. C'est traiter sans respect le sacré. Pas dans l'Église ici, pas dans les églises que je connais, mais si vous regardez l'ensemble de la chrétienté aux États-Unis, en Europe, il y a des églises que c'est plus de l'adoration à Jésus-Christ, c'est un show. C'est ça qu'on appelle profaner quelque chose de sacré. Une adoration à Dieu, c'est sacré, et quand tu commences à traiter une adoration à Dieu comme un show, t'es vraiment dans ce que le texte ici, elles fouleront au pied la cité sainte. Donc, dans la sainte cité, il y aurait deux classes de personnes. Les faux, qu'on appelle les professants, ils professent être croyants, mais tout leur comportement, leur façon d'agir démontre qu'ils ne le sont pas. Et aussi, bien entendu, les vrais. Les professants sont soit des hypocrites, ou des personnes qui ne sont pas régénérées, mais qui assistent à des cultes chrétiens. Ils ont souvent renoncé graduellement à de grandes vérités de l'Évangile et de la Bible, le péché, sa culpabilité, la divinité de Jésus-Christ, la mort substitutive et vicariale de Jésus, la naissance virginale, le fait que Jésus n'a pas péché, la résurrection corporelle, l'enfer, la grâce souveraine de Dieu, la seigneurie de Christ. Ils pensent qu'ils peuvent continuer à vivre de façon impie et prétendre croire en même temps à la Bible. Ça ici, là, juste sur ce paragraphe-là, je pourrais prêcher un an. Sérieusement. Quand on dit qu'ils ont commencé à rejeter des grandes vérités de la Bible, le péché, sa culpabilité, la divinité de Jésus-Christ, il y a des évêques anglais dans l'Église anglicane qui nient la divinité de Jésus-Christ, la mort substitutive et vicariale, ça aussi, la naissance virginale, la même chose, et pas des petits deux de pique qu'on dit, là, des personnes qui sont en haute autorité dans certaines églises, qui sont un peu partout sur la terre, commencent à nier et à renoncer à des vérités aussi fondamentales. Si c'est pas ça, des gens qui profanent le sacré, ça y ressemble pas mal. Et aussi les personnes qui pensent qu'ils peuvent aller dans les églises et qu'à cause qu'ils sont là le dimanche, mais dans la semaine, ils peuvent vivre comme ils veulent, ça ne fonctionne pas comme cela. Alors, la durée de cette profanation, dans le texte, ça dit 42 mois. 42 mois, c'est 42 fois 30 jours, le mois lunaire des Juifs. C'est le 1260 jours, comme il est parlé dans le verset 3. C'est 3 ans et demi. Le livre de Daniel fait aussi une référence à cette durée-là. Ça dit, Daniel 7, 25, il prononcera des paroles contre le souverain. Il opprimera les saints du souverain et il pensera à changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés en sa main pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Ça, quand vous allez voir dans n'importe quel commentateur, ils vont vous dire 3 ans et demi. 3 ans et demi, c'est 42 mois. Puis 1260 jours, c'est toute la même affaire. Et ça dit quoi? Les saints, c'est qui ça, les saints? C'est nous. Seront livrés en sa main pendant un temps, des temps. Alors, il est en train de parler de l'Antichrist. Alors voici ce que le pasteur et théologien réformé Herman Oxema affirme quant à la signification des 42 mois. Et si nous demandons quelle période est représentée par ces 42 mois ou 1260 jours, alors je pense que nous trouvons la clé de cette explication dans le 12e chapitre de ce livre, où on nous dit que l'Église est dans le désert 1260 jours. Là, il est très clair que l'Église est dans le désert depuis le temps de l'exaltation de Christ jusqu'à celui de son retour sur les nuées. Et donc, 1260 jours sont symboliques de toute la période de la dispensation actuelle. Autrement dit, depuis que Jésus est venu jusqu'à son retour. Et là, si on va lire le fameux chapitre 12 qui nous dit que ces choses-là sont mentionnées, chapitre 12, versets 1 à 6, « Or, il parut un grand signe dans le ciel, une femme revêtue du soleil et ayant la lune sous ses pieds et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et souffrant les douleurs de l'enfantement. Il parut aussi un autre signe dans le ciel. Voici un grand dragon, couleur de feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Et sa queue entraînait la troisième partie des étoiles du ciel, et elle les jeta sur la terre. Puis le dragon s'arrêta devant la femme qui allait accoucher, afin de dévorer son enfant quand elle aurait enfanté. Or, elle enfanta un fils qui devait gouverner toutes les nations avec un sceptre de fer. C'est qui ça? C'est Jésus-Christ! Alors, or, elle enfanta un fils qui devait gouverner toutes les nations avec un sceptre de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Regardez bien le verset 6. Et la femme s'enfuit dans un désert où Dieu lui avait préparé un lieu afin qu'il y fût nourri pendant 1260 jours. 42 mois, 1260 jours. Daniel, à un moment donné, faut faire le ramonçage des idées, comme on dit. Trois applications. La première, c'est que c'est le Seigneur qui donne les normes et les règles par lesquelles nous pouvons mesurer notre foi, mesurer nos croyances, mesurer nos cultes, mesurer notre marche chrétienne, l'authenticité de nos doctrines, la permissivité de s'associer et de collaborer avec d'autres personnes qui prétendent croire en Dieu. Ça, c'est un problème de plus en plus grand de nos jours. Les chrétiens acceptent de s'associer avec n'importe qui ne sont plus des croyants, qui se sont grandement éloignés des doctrines. Donc, qui prétendent croire en Dieu ou qui enseignent sur la vie éternelle et les moyens d'aller au ciel, d'obtenir le pardon des péchés. Notre époque présente beaucoup de croyances et de philosophies qui ne sont pas scripturaires. Et si on aurait tellement long à dire ici, là, tellement long. La deuxième idée, Dieu nous dit que les véritables croyants se reconnaissent au moyen d'un double sceau. Moi, j'aime tellement ce verset-là parce qu'il parle tellement fort. Il dit 2 Timothée chapitre 2, verset 19, « Toutefois, le solide fondement de Dieu demeure ayant ce sceau. Le Seigneur connaît ceux qui sont à lui, et quiconque invoque le nom de Christ, qu'il se détourne de l'iniquité. » Voyez-vous, il est en train de dire que la façon de savoir si on est un véritable croyant, c'est qu'il dit, premièrement, Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. C'est sa souveraineté, c'est lui qui les a choisis. Mais il dit, si la personne se prétend véritablement chrétien, c'est que ça dit, quiconque invoque le nom de Christ, qu'il se détourne de l'iniquité. Alors, les deux, la souveraineté de Dieu d'un côté, la responsabilité de l'homme de l'autre. Autrement dit, si tu te dis croyant, agis comme un croyant. Détourne-toi du péché. Essaye pas de concilier la vie chrétienne avec la vie de péché et la vie mondaine. Ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché et ça ne marchera jamais non plus. Troisième, alors un des côtés du sceau est le choix souverain de Dieu, l'élection, et l'autre côté est la foi authentique exprimée par la vraie repentance. Une foi sans repentance, c'est pas de la foi, tout simple que ça. Troisièmement, Nous avons des devoirs envers les faux croyants et les incroyants. Nous devons avertir et réveiller les hypocrites, les inconscients spirituels et ceux qui se séduisent eux-mêmes en croyant qu'il est possible de vivre selon les principes du monde et harmoniser le tout avec une vie supposée chrétienne. Nous devons prier davantage et avec plus de ferveur pour le salut des âmes de nos bien-aimés, de nos parents, de nos collègues de travail, de notre ville, de notre pays et du monde. Nous devons témoigner de notre foi en Jésus, en Jésus-Christ, par notre vie sanctifiée et le partage quotidien de l'Évangile autour de nous. Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni, loué et adoré éternellement. Amen.